pouvoir possède la radio et la télévision.
Nous n'allons pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. C'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France ?
François Mitterrand est élu président de la République.
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82.
C'est que, en tant que président du RPR, je ne me suis jamais occupé des problèmes de financement. Je ne peux pas y croire.
Descends, on peut le dire. Descends. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, viens.
Radio Garage 1984, premier épisode. Des filles, des garçons et un garage. Salut tout le monde, Radio Garage, premier épisode de cette série dédiée à la genèse de Radio Béton. Embarquement vers la ville de Tours en cette année 1984. 1984 qui voit, dans des conditions rocambolesques, la création, dans un garage, d'une radio qui deviendra Radio Béton. Vous allez vous retrouver dans la France de 1984, une France sans ordinateur, sans internet, sans portable, une France qui découvre les radios libres, une France avec 5 ou 6 chaînes de télé, une France où pour le petit blanc moyen, la musique de jeunes, c'est ce qu'on appelle le rock et ses déclinaisons. À l'époque, on ne parle pas de musiques actuelles. Une France aussi qui, 3 ans plus tôt, croyait voter pour un président socialiste et qui, en ce début d'année 80, découvre le libéralisme économique. Une France qui continue à découvrir la crise, et qui n'a encore rien vu. Et c'est dans cette France de province-là qu'une bande de jeunes qui aiment le rock et le punk se retrouve dans le garage de Véronique et Pascal Robert. Des rockers trahis et chassés par des membres de la radio Transistour et qui vont monter une autre radio dans ce fameux garage que l'on peut toujours voir aujourd'hui, mais dans lequel il n'y a plus grand-chose à voir. Pascal Robert.
Par contre, toi, il reste encore la marque Béton n'est pas mort, la FM bande encore.
Donc c'est un bombage sur votre mur, là ?
Toi, on a cassé le garage, qui passait le garage fait au moins 80 mètres carrés. Donc c'était un grand garage. Et donc au fond, on avait installé la radio sur des tables, sur des tréteaux, et puis l'émetteur, et il y avait une fenêtre qui montait directos sur les toits pour aller emmener l'antenne. Voilà. Il y a des groupes qui ont joué quand même pas mal, là. Il y a Express qui a joué, il y a les Réacteurs sont dû jouer, des tas de groupes qui faisaient du bruit.
Donc là, si tu revisualises, où était quoi ? Est-ce qu'il y avait une étagère avec des disques ?
C'est ce que je me rappelle plus. Mon pauvre ami, hein, parce que là, on parle d'avant Radio Béton, hein, donc là, c'est 84, là. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était, voilà, ça a duré 3 mois, quoi. Juste après la fin de Transistour, c'était pour pas se dire les enculés nous ont fait taire, on leur en remet un petit coup.
We'll be right back.
Reactors, légendaire groupe de Tours, pour démarrer cette spéciale Radio Garage. Le garage, c'est celui de Pascal et Véronique Robert, des fondateurs de ce qui allait devenir Radio Béton. À l'origine de cette création, une scission douloureuse dans une autre radio associative, Transistour. Souvenir très vague de Pascal.
J'ai été dans Transistour, mais je suis arrivé vers... j'ai contribué, entre guillemets, à sa fin. Comme je connaissais les anciens, j'ai servi de tampon entre la nouvelle garde et l'ancienne garde et... on n'a pas réussi.
Voilà. Pourquoi ça s'est passé dans votre garage, à vous, Véro et Pascal? Vous étiez les seuls à l'époque dans la bande à avoir un garage?
Peut-être. C'est les seuls qui avaient un grand endroit comme ça, qui était disponible, avec du jus en centre-ville.
L'émetteur, il était sur le toit de chez vous aussi?
L'antenne était sur le toit.
Ouais. Et alors ça portait combien?
Une portée de merde. Une portée de merde. C'était pas très grave. Nous, ce qu'on voulait juste, c'était le symbole. C'est le symbole.
Voilà pour le symbole. Et Véronique Robert, ça lui faisait quoi d'avoir une bande de zozo qui venait faire de la radio dans son garage? Vous aviez pas d'enfant à l'époque?
On n'avait pas d'enfant, je devais être enceinte et voilà, et bah c'était super. Je me rappelle de concerts héroïques dans le garage, c'était trop bien quoi. Non, ça m'a, je sais pas, j'étais plutôt contente, moi j'aime bien quand il y a des zozo.
C'était pour une auberge espagnole, hein. Ils venaient pour faire leur émission, point, puis ensuite ils se tiraient. Ils osaient à peine aller aux chiottes, je sais pas, on sait pas bien où est-ce qu'ils pissaient, parce que à moi la vie pissait dans le puits de lumière, là. Comme les copains de nos enfants. Aujourd'hui. Ils osaient pas monter. Voilà. C'était pas gênant, hein. Nous on débute à l'étage donc ils se démerdaient.
Donc c'était des punks qui savaient se tenir.
Oh, les punks français, hein. Ce sont les punks qui font de la radio, c'est pas des vrais punks, hein. C'est des faux punks parce que c'est le vrai punk, il fait rien de constructif.
Le tout premier studio, il a été ici.
Sauf que ça s'appelait pas Radio Béton, on peut être clair là-dessus. Ça s'appelait Radio Garage. Juste en sortant de l'expérience Transistour, on s'est dit, on continue, on se laisse pas avoir par cette bande de... voilà. Et donc on aimait, puis ensuite on s'est dit, bon, maintenant on arrête et on va essayer d'obtenir une autorisation. Et donc on a attendu de voir, avec le gouvernement en place, on est en 84-85, on est déjà dans les cohabitations et tout ça, là, très vite. Mitterrand, ça n'a pas duré si longtemps que ça, on dit beaucoup de choses, mais très vite, on sent qu'on n'est pas en super position, qu'ils ne vont pas... et donc on risque d'attendre très longtemps si on veut le faire ça à la manière légale. Et donc c'est pour ça qu'en novembre 85, je crois que c'était pour le 11 novembre, c'était un jour férié en tout cas, je ne sais plus si c'est le 1er ou le 11, on s'est dit bon, on y va, tant pis, on y va à la Piratos, et puis ça sera très bien comme ça.
Toujours avec un émetteur et une portée dérisoire.
Oui, sauf que là, on était à rue Édouard Vaillant, c'est-à-dire qu'on était au Bateau Ivre. Avant que le Bateau Ivre soit là, c'est une fédération d'associations qui y était, qui s'appelait l'Amphi, dont Béton faisait partie de cette fédération d'associations, et nous, on était, ça a duré 6 mois ici, jusqu'à ce que la loi nous rattrape.
Ressemble à quoi la France en 84? T'as quel âge toi en 84?
En 84, eh ben, je dois avoir 26 ans. Mais je me souviens pas bien, tu sais, c'était super différent, mais pas si différent que ça, quoi. En 84, bah, c'était la pleine époque des... on fait plein de concerts, parce que c'est le début de l'explosion du punk français, quoi. Enfin, donc là, c'est l'époque Beru qui commence, quoi. avec tous les satellites, les endimanchés, les Ludwig, les machins. Donc là, c'est une belle époque, une belle époque. Une époque super différente d'aujourd'hui, mais finalement, pas tant que ça, quoi. À cette époque-là, les groupes jouaient pour rien. Mais d'un autre côté, bon, maintenant, ils veulent être milliardaires tout de suite.
Les satellites, tous de sales bourgeois. Et nous faisons semblant d'être alternatifs. On vient de Versailles, ça se voit. Et nous faisons semblant d'être des rockers avec nos casquettes. Mais chez nous, on n'écoute que Mozart, Beethoven et Chopin. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le dit, ça doit être vrai. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le sait, partout c'est écrit.
Riches et célèbres, riches et célèbres.
Pour chanter nos conneries, avec le flouze on peut se payer de la coque et des putains. Le week-end en salon on fait de la chasse à cours, on tire sur les pigeons. Si vous voyez nos dégaines avec ces costumes rouges, c'est autre chose que les combinaisons. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le dit, ce doit être vrai. Tout le monde le sait, partout c'est écrit.
Riche et célèbre, riche et célèbre, riche et célèbre, riche et célèbre.
On a tous des piscines en forme de guitare, de basse et de batterie. Du matin au soir, vautrer dans nos villas, on fait parfumer nos peaux de cochon gras. Nous ne sommes pas de ces groupes de héros, unis contre les flics et les faves. Nous, nous sommes tellement bourgeois que les flics et les faves ne nous importunent jamais. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le dit, ça doit être vrai. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le sait, partout c'est écrit. Nous sommes riches, célèbres, tout le monde le dit, ça doit être vrai. Nous sommes riches et célèbres, tout le monde le sait, partout c'est écrit.
Les satellites, riches et célèbres, pour évoquer ces années 80, il est question dans la chanson de Flic et de Faf. Car cette décennie 80 peut apparaître politiquement tendue, crise économique, et donc montée de l'extrême droite. Et dès 86, c'est une droite très droite qui revient aux affaires. Une situation qui peut en rappeler d'autres, Pascal Robert.
La vie est ponctuée de manifestations contre l'extrême droite, de manifestations contre des ministres de l'Intérieur, plus ou moins ripoux, plus ou moins ceci, et donc finalement l'histoire est un très grand recommencement. Hein. On se battait à l'époque contre Royer.
Monsieur Jean Royer, qui était le maire de Tours.
Voilà, mais avec lequel on n'avait aucun rapport, quasi aucun. Un petit peu comme avec Jean Germain, d'ailleurs, avec lequel on n'a pas de rapport direct, hein, ou très très peu. Mais on avait de bons rapports avec certains de ces adjoints, hein, et qui nous ont aidés d'ailleurs. Hein, parce que pour pouvoir nous retrouver ensuite en 86 dans la MJC Saint-Symphorien, c'était forcément avec la bénédiction de la ville. Si elle n'avait pas voulu, ça ne serait pas fait. De la radio, moi j'avais commencé donc à en faire en 82, dans une radio avec pas mal de gens de béton, on s'est retrouvés, donc avec une radio qui s'appelait Radio Cactus, dans lequel il y a eu toute l'équipe qui a monté les Inrocks, il y avait Edu, il y avait des gens qui ont monté ensuite RMT sur Tours. Enfin bon, c'était une radio super, assez rock'n'roll en fait, hein, et trop rock'n'roll pour l'équipe dirigeante, parce qu'on s'est fait virer assez vite, pour cause d'avoir traité les auditeurs d'enculés un jour pour rire, mais bon, apparemment, quand on voulait vendre de la pub, c'était un mot qui était interdit. Je ne regrette pas l'époque.
C'est bizarre, des fois on a l'impression qu'on a fait plein de trucs, qu'on a fait des manifs, qu'on a fait des machins, etc. Et puis bon, là, ils ne s'appellent plus Pasqua et Pandro, mais on a l'impression qu'ils sont toujours là.
Non, ça s'appelle la lutte des classes. Hein. Aucune des classes n'a vaincu, donc eh ben, la lutte est encore là. Les désirs, l'intérêt des deux classes est toujours divergent.
Toi, c'est un discours que tu tiens, mais dans toute la smala qu'il y avait, est-ce qu'il y avait une dimension politique? Hormis la dimension antifasciste, ça c'est quelque chose qui était commun quand même aux gens qui faisaient cette radio.
Oui, mais plus que ça quand même, ça c'était le minimum vital, hein, mais on s'en connaît aucun qui aurait voté à droite. Ce que j'appelle la droite, hein, moi c'est la Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que le PS est à droite ou je sais pas quoi. Chacun pense ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a une vraie droite là. Et donc, c'est différent de quand c'était Mitterrand. Hein. On peut penser que le PS n'est pas assez à gauche. Ça, on peut. Mais en tout cas, confondre les deux, mon avis, c'est presque dangereux. Mais bon, il n'empêche que, à part M. Roselmack, le père de Harry, dont on a découvert au moment des manifestations anti-pape que non seulement il était chrétien, mais qu'il était CRS, à part ce cas avéré de droititude catholique, politiquement, il y avait quand même un plutôt à gauche, mais on va dire à gauche de la gauche.
Des Bérus, gros clichés et flash des années 80, on va continuer à remonter un peu le temps avant 1981, avant l'autorisation des radios libres, toujours avec Pascal Robert.
On sortait à peine de l'époque entre guillemets héroïque qui va jusqu'à la fin 81 où ceux qui ont fait de la radio FM allaient en tôle. Voilà, ça avait quand même une autre dimension. Et donc, le paysage radiophonique, il était extrêmement pauvre, hein, parce qu'avec les grandes ondes, entre guillemets, et au début de la FM, il y avait surtout un robinet à top 50. Quoi. Quand Béton commence, Béton était tout seul à passer des musiques dites alternatives, dites rock'n'roll, enfin tout seul à Tours, hein, mais bien d'autres ailleurs, avec le même chemin. La voix de Radio Béton était spécifique, et extraordinaire en sens où elle sortait de ce qu'on pouvait entendre sur les ondes de Tourangelle, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, et aujourd'hui, la musique est bien plus banalisée qu'elle ne l'était à l'époque. C'est une question aussi de plein de choses, à la fois de business, mais aussi de génération. Quand j'étais adolescent, les Rolling Stones, tout ça, c'était de la musique pour drogués, faite par des drogués, pour des drogués, et qu'il fallait absolument pas écouter. C'était la musique du diable, presque. Donc, tous les adultes bien-pensants, globalement, ne pouvaient pas écouter ça. Aujourd'hui, ils ont tout racheté en CD, parce que finalement, ils se sont fait à... Leur oreille s'est faite, sinon, il y avait une espèce de répulsion pour toute cette musique-là qui aujourd'hui est complètement banalisée, et donc il y a plein de... Et aujourd'hui, la révolution, elle serait à faire à la télé, où là, pour le coup, il y a pratiquement pas de musique live, de musique indépendante qui soit diffusée. Mais sur les radios, finalement, aujourd'hui, entre Internet et les radios, tout est diffusé. Donc, il y a moins un acte politique lié à la diffusion de musique. Alors qu'en 85, 86, 87, pendant assez longtemps, le simple fait de diffuser certaines musiques était déjà un acte politique. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça que, un petit peu dans l'histoire de béton, on essaye de plus en plus de causer dans le poste. Parce que la musique n'est plus ni un bâton, ni un étendard, parce que ça se fait aussi ailleurs. Et donc, il faut prendre un micro, et puis il faut aller interroger des gens. Il faut faire vivre la radio différemment si on veut qu'elle soit détonnante ou déconnante.
Reich Orgasm, du bon punk rock bien relou et bien politique, comme on savait en faire à Orléans. Retour dans le garage de Pascal Robert pour évoquer la lourdeur de ces années punk, pesantes années 80.
À cette époque-là, quand t'es minot et que t'allumes Radio Béton, t'as l'impression de faire de la politique parce que t'écoutes des choses. Alors moi, le punk alternatif, quand j'étais gamin, ça m'emmerdait. Et puis les concerts de trucs alternatifs, ça m'emmerdait, mais j'y allais parce que d'abord, il y avait que ça. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, hein, quand même. Moi, ado, ça me faisait un petit peu peur. Beru, ça me faisait un petit peu peur. Mais j'y allais parce qu'il y avait que ça pour les jeunes, quoi.
Moi, le premier concert des Beru que j'ai vu, moi, j'ai eu peur. C'était au bateau pendant qu'on était en train de monter Radio Béton. Mais c'était orgiasque, quoi. Là, c'était vraiment du punk, quoi. Et la moitié qui était debout sur la scène en train de pisser sur ceux qui étaient... Enfin bon, c'était de bons vieux punk rock relou. Hein, mais voilà. Après, c'est quand même nettement assagi. Hein. Enfin, en tout cas, ce côté-là, c'était beaucoup plus clean. Hein. Mais même, c'est vrai qu'à l'époque, foutre groupe Tourangeau, c'était rigolo. Moi, j'emmenais mes copains Bab les écouter. Et puis quand ils étaient là, les babas aux armes, ils s'y planquaient dans la pâte aux gaz. Hein.
Thank you. Foutre en concert en 1982. Foutre, autre légendaire formation de Tours. Et pendant ce temps-là, l'un des créateurs de Radio Garage vient de sonner à la porte de chez Pascal. C'est Alain Gachet, dit Tonton.
Tonton. Je vais te faire voir quelque chose. Le bordel était par là, il n'y avait pas la pièce qui est là. Et l'antenne était au-dessus, ficelée comme on avait pu, dans des circonstances que certains ne se priveront pas de te raconter, parce qu'évidemment, je vais encore passer pour un con. Mais bon.
En diffusion FM, ce qui est important, c'est régler le tos. Alors le tos, ça n'a rien à voir avec les Portugais. Hein. Le tos, ce qu'il faut, c'est que toutes les ondes, il faut qu'elles diffusent, il ne faut pas qu'elles restent. Et donc, sur un dipôle, l'antenne pour émettre en modulation de fréquence, il y a un petit bout de métal de chaque côté du dipôle que tu dois régler plus ou moins pour non seulement émettre à ta fréquence et ensuite avoir le plus petit taux, c'est-à-dire que l'ensemble des ondes soit bien balancé et non pas reste. Et voilà, donc ça se règle avec doigté, si je puis dire, et et Alain l'a réglé avec ses fesses, voilà, c'est pour ça.
Bon, nous, on était à deux à monter l'antenne, donc sur le toit, et le foutu appareil qui est censé mesurer les ondes en question était situé en bas, donc on communiquait en braillant, ça marchait pas, l'aiguille, elle était pas du bon côté, c'était une horreur, et à un moment, perdant patience, le gars qui était avec moi, il dit « Oh merde !» colle l'antenne dans le cul et on entend la voix venant d'en bas. Bougez plus, faites plus rien, c'est au poil. Donc normalement, je devrais encore y être.
Alors on n'allait pas croire que Radio Garage, c'était que des mecs. Dans ce qui allait devenir Radio Béton, il y avait aussi des filles. Vous avez entendu Véro tout à l'heure. Voici Francine.
Oui, il y avait des filles. Enfin, il y avait des filles de groupes, notamment dans les réacteurs, c'était Cathy. Mais à la radio, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Il y avait surtout Véro et puis...
La première présidente de Radio Béton, c'était une fille quand même, à la fondation, et elle s'appelait Sylviane Lunto. Voilà, elle est restée 2 ans ou 3 ans, quoi, mais c'était une fille. Non, il y avait des filles, il n'y avait pas parité, mais il y avait 3-4 filles.
Ça se fait naturellement, quoi, on ne se posait même pas la question. On était complètement investis dedans, et puis il y avait vachement de mixité, en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, les rockers et les midinettes, non, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. On était ensemble, quoi, tous ensemble. Tiens, ça me rappelle quelque chose.
T'as fait des émissions ici?
J'ai fait une émission qui s'appelait Les Rocs Malines. Donc à l'époque, c'était, on n'était pas au bateau Yves, on était en haut de la tranchée, je crois. C'est vieux tout ça. Au Christ-Roi, oui. Donc c'était très très sympa. Moi, j'avais une petite fille que j'emmenais dans mon couffin d'ailleurs, de temps en temps. Et puis on préparait les émissions. Véro faisait le. On était trois, il y avait Evelyne à l'époque aussi. Et Véro faisait de la technique. Et donc, on préparait dans la semaine les émissions. C'était pour donner des cours de comment devenir une vraie garce, quoi. On était les froufrous avant l'heure, en quelque sorte. On a eu une lettre de soutien. Mais si, ça a bien marché. On a fait ça pendant peut-être une ou deux années, quoi.
Avant Radio Béton, moi, j'ai entendu parler de Transistour, de Cactus, de... À chaque fois qu'on parle de Transistour, là, chez les garçons, en tout cas, il y a dossier, oui. Ça provoque...
Il y a matière, oui, effectivement.
J'ai même entendu des jurons.
Moi, il y a dossier, clairement, quoi.
Raconte.
Transistour, je sais plus quand c'est, mais c'était donc avant Béton, ça devait être 82 ou 83 jusqu'à 84, quoi. Et pourquoi il y a dossier? Parce que c'était une radio de gauchistes, hein, et que...
Quelle horreur.
Voilà, et que chez les gauchistes, il y a des discours bien formatés. Et là, il y avait une poignée de gauchistes qui savaient exactement ce qui était bien pour la femme et comment la femme devait se libérer. Et donc, ils étaient très...
Gauchistes mâles ou gauchistes femelles?
Gauchistes mâles. Les gauchistes mâles...
Ils savent toujours mieux que les femelles, ceux-là. Ils
savaient toujours mieux que les femelles et savaient exactement comment les femmes devaient se libérer. Et donc, dans la partie rock de Transistour, il y avait une poignée de femmes ou de filles, comme dirait Francine, qui se posaient même pas la question de savoir pourquoi elles étaient là, qui adhéraient à la musique comme les autres, qui braillaient pendant les concerts comme les autres, qui buvaient des coups comme les autres, et qui, à un moment, étaient interpellées par le fait qu'on leur explique que ce qu'elles faisaient, c'était pas très militant et très féministe, si tu veux, et qu'on n'aurait jamais dû accepter de marcher dans ces plans-là. Je me rappelle notamment d'une affiche avec une pépette des années 60 à cheval sur une banane, toute chose que je trouvais résolument rock'n'roll, et qui a été décrétée nulle et non avenue et antiféministe au dernier degré et qui a été arrachée des studios. Et on m'a fait un sermon pour m'expliquer, Véro, toi qui es une femme, dans ces années-là, tu devrais comprendre à quel point c'est machiste. Et moi, j'ai pas compris. Donc c'était une des raisons de la dissension qu'il y a pu y avoir après, si tu veux. À partir du moment où un mec prétend me donner des leçons pour m'expliquer comment je dois fonctionner, forcément, moi, qui ne suis pas féministe, je me rebelle. Donc tout était comme ça. Après, le rock'n'roll, c'était pas assez à gauche. Le rock'n'roll n'était pas résolument engagé. Le rock'n'roll ne respectait pas des principes. Les punks, c'était n'importe quoi. Donc c'était pas dans le trip militant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu scission, en fait. Et moi, je leur en veux terriblement de cette scission parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre que chacun avait son expression et que tu pouvais être engagé en ayant une expression différente de la de l'expression tradie, quoi.
En fait, c'est comme les Beatles avec Yoko Ono, c'est les filles qui ont foutu la merde, quoi.
C'est toujours comme ça. L'histoire de France le prouve bien.
Ah ben non, c'est pire que ça, puisque le réseau de bien-pensants, on va dire, les maîtres du lieu, ont estimé que notre action étant pas du tout en accord, en adéquation avec les idées et ce qu'ils voulaient en faire, il fallait tout simplement qu'on dégage. Donc comme la démocratie a pas fait qu'on a été dégagé par le jeu des votes et des trucs comme ça, ils sont venus en pleine nuit, ils ont enlevé tout le matériel qu'il y avait, et puis ils sont partis avec. Donc un matin, on est arrivé dans les studios, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc les gros mots, si tu veux, c'est parce qu'après, on les a un peu cherchés. On a cherché le matériel, on a un peu cherché les mecs.
Ce matériel, il appartenait à tout le monde, il appartenait à l'association, vous aviez payé.
Il appartenait à tout le monde, il appartenait même en partie à pas mal de rockers qui avaient mis des billes dedans et qui avaient prêté de l'argent, oui.
Et vous les avez retrouvés ?
Alors, on les a retrouvés, mais alors, plusieurs années après, puisque quand on a eu des problèmes de fréquence, ça devait être en 85-86, on a récupéré le matériel de Transistour qui était devenu entre-temps Alice FM avec notre matériel et qui a déposé le bilan. Et du coup, on a négocié avec le président d'Alice FM pour récupérer le matériel qui, quelque part, revenait à la structure qui pouvait continuer, quoi.
Transistor, ça démarre quand ?
Moi, je dirais en 78 ou un truc comme ça. Ils ont démarré vraiment avant la libération des ondes. Et donc, ils étaient dans une, vraiment dans un trip alterno.
Pirate,
roots, fallait se déplacer, etc. Donc, ils ont vécu quand même quelque chose de très, très fort. Et on peut leur concéder qu'ils ont quand même largement contribué à la libération des ondes.
C'est eux qui faisaient le tour du boulevard Orteloup ou ailleurs, qui avaient l'émetteur ambulant dans la voiture, hein.
Bah, ils ont fait des plans comme ça, ils ont fait plein de plans routes comme ça. Ça, on ne peut pas leur retirer ça. Ils se sont battus et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a eu l'autorisation d'émettre les uns et les autres en 80, hein, clairement.
Donc ce putsch, on va appeler ça comme ça, il a lieu quand ?
Moi je dirais 84, puisque c'est à l'issue du putsch qu'on a décidé de monter béton, parce que quand on s'est retrouvés comme des cons, sans matériel, mais avec plein de gens qui avaient envie de continuer, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Donc on s'est réunis et on a dit bah, on va mettre chacun des thunes sur la table, on va racheter du matériel et puis on va continuer à émettre et puis fuck off. Donc c'est pour ça qu'on a émis du garage, parce que quand on a réuni les fric, qu'on avait à peine de quoi acheter un émetteur et puis tu vois une table de mixage, donc il était hors de question qu'on ait des locaux ou des choses comme ça. C'est pour ça que pendant 6 mois on a démarré dans le garage. Jusqu'à ce qu'on trouve un accord avec l'amphi, avec Jean-Pierre Lyon, qui nous a hébergés dans l'amphi qui est l'actuel bateau ivre.
I heard it through the grapevine. Reprise du standard de Marvin Gaye, signée des Slits, des filles du rock'n'roll, en hommage aux premières filles de Radio Béton, dont Francine et Véro, des pionnières de notre radio garage.
La libération des ondes en 81, ça ressemble un petit peu à ce qu'a été Internet il y a 10 ans. Quoi. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on pouvait s'exprimer et être entendu par les autres, même pour des choses qui n'avaient pas voix sur les médias traditionnels. C'était un média libre, vraiment.
Mais pour l'auditeur, c'est quand même un côté magique, justement, de ne pas écouter toujours les mêmes grandes ondes. Et là, c'est vrai que c'est, toutes ces radios libres, notamment Béton, c'était quand même... Il y avait une super programmation au niveau musical. C'était des galettes qu'on entendait nulle part ailleurs, quoi. Ça, c'est clair. Hein.
C'est pour ça que je dis que c'est exactement comme Internet, en fait. Tu vois, quand Internet n'existait pas, les radios libres, ça a été la seule façon qu'on avait de promouvoir de la musique et de faire écouter de la musique que tu avais envie d'entendre et que tu n'entendrais jamais à la télé ou dans les radios classiques. Donc c'était vraiment une façon de pouvoir communiquer et de faire connaître une culture alternative. Moi, je vois ça comme ça. Et Internet, actuellement, ben, ça promeut pas seulement une culture alternative, mais ça permet cette libération et cette circulation de tes passions, de tes coups de foudre. Tu vois, ça permet à des tas de gens de se faire connaître qui se seraient jamais fait connaître sur des supports classiques.
Est-ce que vous aviez l'impression de faire de la politique ?
Oui, je pense, oui. On était quand même engagés. C'était pas conventionnel, forcément. On mettait vraiment des choses... Et puis, on était toujours pirates. Oui, bien sûr. C'est un grand souffle, quoi. Enfin, bon, après, libre, quoi. Libre de tout, libre de... Comparativement à ce que la jeunesse vit aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, quoi. On se permettait tout.
Pour moi, ça évoque surtout, musicalement, les mouvements alternatifs.
Bah oui.
Quand tu dis, est-ce qu'on était engagé politiquement ? Pour moi, on l'était à fond, mais pas avec les méthodes conventionnelles, justement, qui régnait à Transistour, c'est-à-dire pas en tenant des discours barbants sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, le changement de société mou et didactique, mais sur un changement par la force et nous on va sortir dans la rue et le changement vous allez l'avoir dans la gueule. Et c'est quand même là, l'époque des punks, enfin ou post-punk parce que les pros du truc diront que les punks c'était en 70 ou en je sais pas quoi, mais bon à Tours en tous les cas ou en France dans les années 85. Il y avait un gros mouvement quand même, Nos Futurs, qui avait un engagement politique à travers ce Nos Futurs.
Un engagement politique plutôt très 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 à gauche. J'aime bien la qualité de ce silence.
Oui, si être à gauche, c'est être ne pas être d'accord avec les privilèges, ne pas être d'accord avec les gens qui s'engraissent sans arrêt, ne pas être d'accord avec le fric, avec la politique des banques et des choses comme ça, c'était déjà en 85, il y avait déjà plein de gens qui gueulaient contre cette société de consommation, qui gueulaient contre les élites, qui gueulaient contre cette espèce de cadre de gens qui pensaient qu'au fric, contre cette société qui était complètement hiérarchisée et qui laissait aucune place aux gens qui n'étaient pas dans le truc. Si t'étais pas avec ton complet veston cravate, encore plus en 85 qu'aujourd'hui, c'est que t'avais raté ta vie. C'était même pas j'ai pas de Rolex, j'ai raté ma vie. C'était j'ai pas un job, je suis pas personnel d'encadrement. C'est une société où pour réussir, il fallait gagner du pognon. Ça a toujours été comme ça. Donc cette mouvance alterno qui justement revendiquait un espèce de genre dérangeant, un look agressif entre guillemets, parce que c'était plus fun souvent qu'agressif, quoi. Moi je trouve que c'était une façon de remettre les choses en place, et puis comme il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça, tu t'affirmais comme un nouvel espace, quoi.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, si vous avez un tempérament d'aventurier et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de trucs.
Y'all know.
Rien à foutre, mélopée signé Robert Kampf, toute droit sortie des années 80. On en parle de ces années 80 avec Francine et Véro, deux fondatrices de Radio Béton, toujours dans le garage qui fut le studio de Radio Garage. Alors ces années 80, pas très drôles, la crise, la droite très très droite, l'extrême droite. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui et est-ce que rien n'a vraiment changé dans le fond ?
Non, moi j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un cycle. J'ai l'impression que c'est la lente dégradation de ce qui s'était amorcé en 85. Tu vois, à titre d'exemple, moi j'étais en fac. Quand j'ai commencé Transistour et tout ça, j'étais en fac d'économie. On discutait des échelles des salaires et on trouvait que c'était pas normal parce que les échelles des salaires étaient de 1 à 20. Je me rappelle très bien de mes cours de sciences éco en deuxième année, c'était de 1 à 20. Maintenant, c'est de 1 à combien ? De 1 à 100 ? De 1 à 150 ? Je sais plus, ils l'ont dit l'autre fois à la télé, je m'en rappelle plus quoi. Mais je pense que cette échelle des salaires, le trou s'est encore creusé quoi. Ça a continué à dévaler la pente.
Actions, stock-options, gros salaires, les patrons gagnent toujours aussi bien leur vie. Des chiffres. Selon l'enquête du mensuel économique Capital, les 50 patrons les mieux payés de France ont vu leurs revenus augmenter 3 800 000 euros par an en moyenne pour les mieux payés. C'est l'équivalent de 316 ans de SMIC.
Est-ce que dans ces années-là, quand vous causez dans le poste, est-ce que vous avez l'impression que vous contribuez à changer la société ? Est-ce qu'il y a cette envie-là ou est-ce que c'est juste pour du fun ?
Non, il y a forcément des messages, mais non, c'était plus pour le fun. Je l'ai vécu comme ça. On n'était pas engagés, c'était pas ciblé.
Moi, je pense que si Béton s'est monté, c'est quand même une forme d'engagement pour tous les gens qui l'ont monté. Après qu'on ait trouvé du plaisir à le faire, du plaisir à être ensemble, et puis que ça soit devenu fun de faire de la radio ensemble et de s'amuser, de boire des coups ensemble, ça c'est clair. Mais au départ, c'était quand même une envie de changer les choses et une envie de pas être comme tout le monde et une envie d'affirmer ce que tu avais à l'intérieur de toi, quoi, ce que tu pensais vraiment, et puis aussi l'envie d'appartenir à un groupe qui soit pas un groupe politiquement identifié avec un programme, avec des trucs comme ça, mais avec te rassembler avec plein de gens qui avaient un peu ta façon de voir les choses et qui pensaient que c'était dans la Provo aussi que tu faisais avancer les trucs, que c'est en disant les choses que tu pouvais permettre la discussion. Enfin, il y avait quand même tout ça derrière, quoi, clairement.
Louis Schweitzer, l'ex-PDG de Renault, arriverait en tête avec près de 12 millions d'euros de revenus. Les salaires des PDG ne sont plus qu'une faible part de leurs revenus. Les stock options, mais surtout les dividendes versés aux dirigeants actionnaires, représentent désormais la plus grosse part de leur fortune.
Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on les flingue de citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de la. Oui, on les flingue de citoyens, votons le cul à ces crétins. Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des champs sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on n'a pas. Alors arrêtons de nous laisser faire, soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, est dur et pérennaire pour une poignée de billets verts.
Les patrons chantés par les Sales Majestés. N'empêche que pour aller les voir, les patrons, et leur demander des sous pour les activités autour de Radio Béton, y avait Francine.
Oui, alors là, je ne sais plus dans quelle année on est, mais effectivement, il y a eu des gens qui nous ont soutenus. Moi, je me rappelle notamment avoir été voir Donagneau de Lefebvre. C'était le premier qui nous a fait.
Déjà ?
Oui, déjà. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais bon, il a été. Bref, c'est bon, il nous a fait une lettre de soutien. Et puis bon, après, je suis allée voir Marie-France Beaufils, je suis allée voir après plus des grandes maisons de l'époque. Donc, il y avait le Petit Paris. on se démenait pour obtenir au moins un soutien des politiques. Et puis il y avait aussi l'EDF qui nous a quand même bien aidés à cette époque-là.
Enfin, moi je dirais qu'il fallait quand même avoir beaucoup de courage à cette époque pour aller voir des gens, pour aller vendre un projet, une radio dont le nom était Punk, pour une nouvelle culture, et dont l'image était résolument destroyée, quoi. Donc quand t'allais voir des gens, moi je me rappelle qu'avec Francine, on allait de temps en temps faire du démarchage pour trouver de l'argent pour Ocar, puisque Ocar a commencé la même année qu'on a créé la radio, et je me rappelle avoir rencontré des gens qui nous disaient « Mais pourquoi on donnerait de l'argent pour un public qui va de toute façon nous crever nos chaises avec des couteaux, tout nous sanguiner, ou des gens qu'on n'a pas envie de voir, quoi ?» Donc, c'était pas simple.
Ah, bah non, ça, c'était pas simple, c'est sûr. Il a fallu travailler au corps, comme on dit.
Mais cela dit, avec quelques succès.
Ah, bah oui, parce que ça, c'est quand même la première année, on a quand même eu. Moi, je me souviens plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a eu pas mal d'argent, quoi, qui ont permis de faire venir des groupes, quoi. Pas que locaux, hein, on avait fait venir quand même des gens.
Donc, vous alliez démarcher des politiques, des EDF, des trucs comme ça, alors que la radio était toujours pirate, parce qu'elle a été légalisée en 90.
C'était plus pour Ocar. Et pour Ocar, il y avait une communication en termes d'affichage et de choses comme ça. Et ce qu'on vendait, en fait, c'était la présence sur les affiches, c'était l'association, tu vois, qui soit associée à un événement, qui soit associée à un concert. Et il y a des gens que ça amusait. Oui, on a trouvé ça. Des gens comme le Petit Paris, Monsieur L'Enfant. C'est quelqu'un qui, même s'il s'occupait d'une grosse boîte, parce qu'à l'époque, le Petit Paris, c'était rue Nationale, c'était un énorme magasin, il avait cette espèce de truc derrière la tête qui faisait que ça l'amusait, quoi. Ça l'amusait de provoquer aussi, et puis de rentrer là-dedans. Et puis, il n'était pas complètement idiot. Il savait que c'était quand même les jeunes qui venaient acheter dans son magasin. Mais il fallait passer quand même ce pas, quoi. Il l'a fait.
Ils en tirent un bénéfice, tous, parce que même politiquement, après, c'est les futurs électeurs. Enfin bon, c'est ça va de pair, quoi. Ils le savent bien.
Le parti de la jeunesse !
Délicatesse de la souris déglinguée et son parti de la jeunesse pour parler de celle de Radio Béton de jeunesse, à l'époque où Radio Béton s'appelait pas encore Radio Béton mais Radio Garage. On l'a vu, cette création est le résultat d'une violente scission entre des animateurs de Radio Transistor. On est en 1984 et pour caricaturer, la tendance gauchiste jazzeux de Transistor, débordée par les rockers insolents, monte un putsch et fait main basse sur le matériel de la radio, privant momentanément les rockers d'antenne. Vous allez faire maintenant la connaissance de Pascal. Et pour Pascal, acteur de cette époque, au-delà de cet événement, c'est tout un symbole de changement. Des années 70 aux années 80.
Je vais être un peu sérieux, là, je m'excuse. Je crois que la fin de Transistor, ça a été un petit peu la fin du gauchisme. Le Transistor, ça a été... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Transistor a été monté en 78, j'y étais... Donc c'était tout un tas de gens...
C'était rue Lamartine, c'est ça ?
Rue Lamartine, ça a été en 1980, hein, la légalisation. Non, en 78, c'était le mouvement des radios libres, des gens qui sont groupés, beaucoup effectivement d'anciens gauchistes, mais qui venaient plutôt des Mao ou choses comme ça. Transistor a été monté donc par une bande de gens, beaucoup d'anciens gauchistes, quelques autres qui venaient plutôt des milieux un peu plus libertaires, Et donc, bah, Transistour, on a vécu pendant 3 ans sous la prohibition, c'est-à-dire avec des émissions clandestines, on se faisait brouiller. C'est vrai qu'à l'époque, la bande FM était beaucoup moins polluée que maintenant. Il y avait de la place. C'est vrai qu'avec un petit émetteur de merde qui faisait 10 watts, on émettait jusqu'à Mont-Louis. On émettait donc en voiture et ensuite on passait les émissions. Oh, c'était une demi-heure ou une heure par semaine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutaient. De toute façon, on était complètement brouillés. On avait un émetteur de merde qui émettait sur 3 ou 4 fréquences à la fois. Et je me demande d'ailleurs si le vendredi soir, les avions pouvaient atterrir à l'aéroport, parce qu'il paraît qu'on dégueulait de partout. Et on arrivait même à avoir 3 brouilleurs contre nous sur 3 fréquences différentes le soir. Dans notre système, c'était très simple. C'est-à-dire qu'on avait un petit couple gentil, propre sur eux, avec une belle voiture, qui eux avaient l'émetteur dans la voiture avec une antenne d'autoradio classique sur le toit, quoi. Et autour, bah, il y avait 3-4 bagnoles avec des chevelus, des bagnoles, des 403, des 4L avec des autocollants Larzac et antinucléaires partout. Et dès qu'on voyait les flics, et bah, toutes les bagnoles et les chevelus se barraient en courant. Et bah, le petit couple gentil dans la belle voiture coupait juste l'émetteur. On s'est fait contrôler plusieurs fois, mais on s'est jamais fait piquer l'émetteur.
Moi, je voulais juste ajouter, et là, c'est un scoop que je vous réserve depuis pas mal d'années. Alors, je tairai mes sources, mais j'ai un relevé d'écoute de Radio Transistour par un bon citoyen qui envoyait à la police son rapport d'écoute de Radio Transistour dans les années 79-80. Ils ont émis de telle heure à telle heure, ils ont dit ça, machin, et bon.
Alors, ils se disaient des choses vraiment épouvantables sur cette antenne ?
Ah, sans doute, je sais pas, je l'écoutais pas.
Ainsi s'achève le premier épisode de Radio Garage 1984. Ne ratez pas du gauchisme au punk rock, le second épisode de cette fabuleuse saga.